106.9 Mauricie.
Que la Mauricie se lève.
Voici Marc-André Pelletier.
À 8h15, c'est important de lui reparler parce que oui, on approche de la date fatidique des un an de conflit du côté de l'aluminerie de Bécancour. Également, il y a plusieurs, questionnements qui perdurent et qui demeurent relativement à ce conflit-là. Et là, il a soutenu vouloir créer un groupe de travail pour faire l'inventaire des services qui pourraient être offerts aux deux parties qui ne réussissent pas à s'entendre. Il est question du ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale également. Évidemment, député de Trois-Rivières, Jean Boulay est avec nous. Bon matin, M. Boulay.
Comment ça va, Marc-André? Allez-vous bien?
Très bien, vous aussi?
Oui, tout à fait, absolument. Bonne année, Marc-André.
Bonne année également. Bonne année à vous et à tous vos proches aussi. M. Boulay, je pense que c'est ce qu'on pourrait souhaiter, entre autres, dans le dossier de l'ABI, une bonne année.
Ah, tout à fait. Écoutez, si on fait un bref rappel des faits, souvenez-vous, j'ai créé un conseil de médiation au mois de novembre avec une date butoir au 30 novembre à la demande de ce conseil-là. La date a été repoussée au 21 décembre et j'anticipais parce qu'on avait des médiateurs extrêmement chevronnés. Puis j'aimerais ce matin, Marc-André, profiter de votre tribune pour reconnaître la qualité de leur travail. Ils ont œuvré de façon extrêmement dynamique. Cependant, le 21 décembre, on a constaté que les partis demeuraient bien positionnés et ils sont extrêmement loin encore. Donc, moi, j'avais dit le 21 décembre, je vais rencontrer les membres du conseil de médiation. Je les ai rencontrés il y a deux jours à Montréal. Ils m'ont fait rapport, ils m'ont confirmé à quel point c'était devenu une négociation basée sur les positions. Alors, ce que j'ai dit, faut aller derrière les positions, faut essayer de voir quels sont les intérêts derrière les positions respectives des partis. Et souvent, ces intérêts-là, Marc-André, s'expriment par des objectifs de négociation. Donc, j'ai travaillé avec le conseil à identifier 5 objectifs de négociation.
Okay.
Et après ça, je suis en train de compléter l'inventaire des services qu'on peut rendre à mon ministère Travail et Emploi pour être en mesure de travailler, de mettre le focus sur l'atteinte des objectifs de négociation des partis et de les inciter encore une fois à négocier avec diligence. C'est d'ailleurs une obligation qui est prévue au Code du travail. Et si vous me permettez, Marc-André, les 5 objectifs c'est la flexibilité des opérations, la productivité, la stabilité des emplois, le climat de relations de travail, puis la pérennité de l'usine. Et nous, on a des spécialistes qui sont formés en économie, en relations industrielles, en droit, qui peuvent intervenir directement dans l'environnement de travail et qui sont capables de faire des diagnostics organisationnels, qui sont capables de redéfinir l'organisation du travail de façon à permettre aux salariés d'être plus flexibles. Ils peuvent même soutenir les parties dans la négociation d'un protocole de retour au travail. On parle d'amélioration de productivité, de rentabilité, amélioration du climat de relations de travail. On peut organiser des ateliers pratiques en négociation raisonnée pour améliorer la qualité du rapport et de la communication entre les parties. Donc, si on est capable de faire un bon arrimage entre la nature des services qu'on est en mesure d'offrir et après avoir bien identifié les objectifs, je pense que si on met l'emphase ou si on met le focus vraiment sur l'atteinte des objectifs, ça va être beaucoup plus bénéfique, puis ça va nous rapprocher de notre objectif fondamental qui est de permettre aux parties de faire une entente négociée entre elles.
Ah, parce que là, on y croit de moins en moins, pour être bien franc, M. Boulay, quand on regarde ça. Et il y a beau avoir des concessions budgétaires à effectuer, il y a des complications également qui font en sorte que, par exemple, Hydro-Québec perd de l'argent là-dedans. Une donnée qui est sortie, on parle de 215 millions, les coûts du conflit pour Hydro-Québec. À partir du moment où ça coûte de l'argent aux Québécois, aux Trifluviens, aux Mauriciens, aux Bécancourois, à un moment donné, il faut que ça avance.
Je suis extrêmement préoccupé par... en même temps, M. Pelletier, vous savez, il y a un contrat qui est intervenu entre les parties, entre Hydro-Québec et Alcoa, notamment, et ce contrat-là a fait l'objet d'un certain nombre de lettres d'entente où il y a eu des amendements. Les derniers amendements remontent à 2014. Nous n'étions pas au pouvoir. J'ai lu ce contrat-là. Je suis conscient du libellé, notamment relatif à la définition de la force majeure. Ça me désole Je suis déçu de cette réalité-là. En même temps, c'est l'application d'un contrat qui a été négocié entre des parties. Mmh. Et c'est ce à quoi je dois... c'est ce que je dois réaliser ce matin.
Ouais. Quand vous êtes allé parler aux dirigeants à Pittsburgh, c'était quoi l'accueil? Parce que j'ai l'impression, eux autres, que pour eux, Bécancour, là, c'est un petit morceau là, dans le fin fond du Québec, lointain, puis que ça les impacte pas vraiment.
Je les ai, Marc-André, sensibilisés aux impacts. Puis moi, je suis extrêmement préoccupé par les répercussions humaines. On en a parlé souvent. Oui. Sociales, économiques. Je vis à Trois-Rivières. Je suis constamment interpellé, que je sois au restaurant, dans un commerce ou un voisin qui me parle du dossier d'OBI. Il y a des familles qui sont affectées. Il y a de la détresse qui découle de ce conflit-là. Et moi, j'étais bien outillé. J'avais toutes les données, les statistiques. Je leur ai fait réaliser quelles étaient les conséquences humaines, sociales et économiques. Ils ont partagé avec moi. Ils ont réalisé que cet impact-là nous imposait la nécessité à nous d'intervenir et d'agir dans les meilleurs délais possibles. Ils étaient d'accord avec moi, puis ils ont exprimé une volonté claire d'en venir à une entente négociée. Évidemment, ils m'ont réitéré les objectifs de négociation qu'ils avaient en tête. Ils font partie d'ailleurs des objectifs que je vous ai exprimé un peu plus tôt. Mais non, ils sont tout à fait conscients, ils sont soucieux, mais moi, je suis tanné d'entendre parler de volonté. Moi, je veux que ça s'exprime en action concrète, en gestes concrets. Le 21 décembre, j'ai exprimé à quel point j'étais déçu. Je suis encore extrêmement déçu, mais je vais toujours demeurer présent dans ce dossier-là. Je vais toujours être acharné. Puis là, le groupe de travail que je propose et que je forme, qui est issu de spécialistes qui peuvent faire des diagnostics en usine, qui peuvent accompagner les parties tout le long de leur parcours, moi, je pense que c'est une nouvelle tentative qui va inciter les parties encore une autre fois à s'asseoir, puis de façon sérieuse et de manière diligente, négocier, puis en venir à une entente. Ils me le disent des deux côtés. On veut, Jean, une entente négociée entre nous. Faites-moi la preuve de ça.
Ouais, parce que là, on est rendu là quand même, là, quand on regarde ça, ça va faire un an vendredi que le conflit dure et, tu sais, du côté des dirigeants d'ABI, je me dis, bien, pourquoi je continuerai à négocier puis je voudrais que ça progresse, l'usine roule quand même, l'argent rentre aussi, puis Hydro me coûte pas plus cher, fait qu'allons-y comme ça.
Ben, écoutez, ça, c'est une alternative, c'est un raisonnement qui m'a pas été rapporté, évidemment, je comprends votre perception. Mais moi, je pense pas que ce soit vraiment compatible avec la réalité. Et Marc-André, comme je l'ai mentionné hier, la balle est vraiment dans le camp des partis. Mm-hmm. Maintenant, ils ont le fardeau de démontrer qu'ils sont capables de joindre l'action à la volonté exprimée oralement.
Ouais. Permettez-moi d'insister, M. Boulay, parce que je sais que la faute ne vous revient pas nécessairement, mais Lucien Bouchard, dans les faits, il est arrivé en mai dernier, pratiquement en sauveur. On se disait, ce gars-là, expérimenté, la réputation qu'il précède, va contribuer à dénouer l'impasse et est probablement payé à grand prix, parce que finalement, on ne sait pas nécessairement non plus combien il coûte et combien ses services coûtent. Mais on regarde ça aujourd'hui, puis dans les faits, il fait quoi?
Ben, il est intervenu comme médiateur.
Oui.
Spécial. M. Bouchard a une expérience reconnue, pas seulement au Québec, mais à l'échelle internationale. C'est quelqu'un qui a beaucoup d'habileté. Il a d'énormes qualifications. Moi, j'ai un immense respect pour lui. Quand j'ai formé le conseil de médiation spéciale en novembre, je l'ai fait accompagner par ma sous-ministre associée aux relations du travail et Jean Nolin, souvenez-vous, qui était le conciliateur assigné en vertu du Code du travail. C'était vraiment une équipe solide, qui avait toutes les capacités pour permettre aux parties de se rapprocher. Parce que, vous le dites bien, moi, je ne suis pas en table de négociation. Moi, je suis un facilitateur. Je veux aider les parties. Je veux mettre de la pression sur les parties pour qu'on règle ce dossier-là pour le bénéfice des familles et des êtres humains qui sont affectés. Mais j'ai été contraint de réaliser le 21 décembre que ce conseil de médiation-là n'était pas parvenu à ses fins, pas par manque d'habileté, comme je vous dis, ils ont travaillé de façon intensive et extrêmement dynamique. Mais là, je dois mettre un terme à ce mandat-là que j'avais confié en novembre. Évidemment, ce conseil-là, M. Bouchard, restera à ma disposition le cas échéant. Ou si les parties d'un commun accord me demandaient une nouvelle intervention d'un conseil de médiation spécial, je pourrais réagir de façon positive à ça. Il ne faut pas oublier que le Code prévoit toujours que une des parties peut demander que je nomme un conciliateur qui pourrait être une des trois personnes qui était sur le conseil de médiation spéciale ou une autre personne pour créer une nouvelle dynamique. Mais moi, j'essaie encore une fois, depuis lundi, de rajouter une nouvelle condition qui est favorable à l'atteinte de l'objectif que tout le monde semble, auquel tout le monde semble adhérer, c'est-à-dire d'avoir une entente négociée par les partis et entre les partis. Okay. Et dans les meilleurs délais possibles. Puis je lâcherai pas, Marc-André. Mmh.
Pour être sûr que je comprends bien ce que vous me dites, dans le fond, Lucien Bouchard, là-dedans, et les autres médiateurs, mais dans ce cas-ci, M. Bouchard, vous les appelez un peu sur demande, vous leur demandez d'intervenir un peu à la pièce, c'est ça?
Bien, c'est un mandat que moi, je confie. Il y a un article de la loi sur le ministère du Travail qui me donne cette autorité-là, et je peux constituer un conseil de médiation pour répondre aux besoins, pour aider à régler un conflit de travail comme celui que nous vivons à Abbey. Absolument.
Ouais. Ce que je veux dire, c'est qu'il n'est pas là tout le temps, il est là aux besoins.
Non, le mandat que j'ai confié le 7 novembre, il est expiré, terminé. C'est ça. Et bon, moi, je les ai rencontrés lundi pour leur confirmer. Évidemment, ces personnes-là demeurent à ma disposition le cas échéant. Mm-hmm. Et comme je vous mentionnais, si jamais les partis me le demandaient, mais on a constaté tout le monde ensemble, puis ils m'ont fait rapport des travaux de médiation. Et les positions des partis, il n'y a pas eu de rapprochement. Il n'y a pas eu de... Et c'est la raison pour laquelle, M. Pelletier, je disais que l'hypothèse de règlement demeure toujours une avenue potentielle, parce que c'était dans mon plan d'action. Mais là, c'est prématuré pour l'hypothèse de règlement. Les partis ne bougent pas de façon significative et sont beaucoup trop éloignés pour que je puisse utiliser l'hypothèse de règlement à ce stade-ci.
Oui, c'est ça. Je pense que c'est ce qui nous décourage un petit peu de se dire ben, on est un an plus tard, puis on n'est pas vraiment plus proche, puis peut-être même qu'on est plus loin qu'on l'était.
Pas de commentaire à formuler là-dessus, M. Pelletier, mais je partage vos sentiments.
Ouais. Et M. Boulay, tout juste avant de vous laisser, faut que je vous glisse un mot là-dessus et faire le parallèle, parce que je suis convaincu que vous allez être prudent dans votre réponse, mais votre chef, François Legault, qui a décidé de faire un changement au ministère de l'Environnement, je comprends que vous allez probablement supporter Mme Chassé et M. Charrette là-dedans, dont les postes sont intervertis, si on peut le dire comme ça. Mais l'un des éléments qu'on a abordé, entre autres, c'était de dire ben la gestion du poste de ministre et la cohabitation avec les médias, c'est l'un des éléments peut-être les plus difficiles à assimiler pour les nouveaux élus. Est-ce que c'est ce que vous avez pu constater vous-même en tant que nouvel élu?
Je vais faire un commentaire qui est purement personnel, Marc-André. Moi, dès mon assermentation le 18 octobre, je me suis engagé à être extrêmement transparent puis à communiquer avec les médias. Moi, j'aime l'interaction qui se développe autant avec les journalistes, la presse écrite que les médias électroniques. Moi, j'aime ça le faire. Je le disais tout à l'heure à mon attachée de presse, Caroline Dastou. Je le fais quasiment sur une base quotidienne, soit par voie de communiqué, soit par des entrevues sur la colline parlementaire, soit par des annonces à Montréal, comme vous vous souvenez, le 12 décembre dernier pour les amendements au règlement sur l'aide aux personnes et aux familles. Moi, c'est un des volets de mon travail que j'apprécie beaucoup.
Excellent, M. Boulay. Merci beaucoup d'avoir pris le temps ce matin.
Merci, Marc-André. Bonne journée puis au plaisir de se voir bientôt.
Assurément, à bientôt. Merci. Bye-bye.
Au revoir.
Jean Boulay, ministre du Travail, de l'Emploi, de la Solidarité sociale, responsable de la Mauricie, député de Trois-Rivières également, nous parlait des plus récents développements dans le dossier donc de l'ABI, parce qu'il va mettre sur pied, un comité de travail interne qui va être, mandaté pour faire avancer les choses, parce qu'effectivement, c'est pour ça que je le tenais plus serré ce matin, entre autres, moi, ça me rentre pas dans la tête qu'un an plus tard, on en soit à la même place, puis on est peut-être même moins loin qu'on l'était il y a un an. À un moment donné, c'est correct, là. Je veux dire, il peut y avoir des disputes, puis on nous répète que c'est une entreprise privée, puis que le syndicat, puis que les deux parties sont campées sur les positions et tout ça. Reste que quand même, quand je regarde ça, je me dis véritablement, et c'est la question que je lui ai posée, je me dis, moi, là, je possède une entreprise. Je mets du monde en lock-out, ça me coûte moins cher en payroll, permettez-moi l'expression. Les dépenses sont moins chères aussi. Je continue à bénéficier de mes rabais concurrentiels de la part d'une société d'État qui s'appelle Hydro-Québec. L'entreprise continue à rouler quand même. Pourquoi je réglerais? Pourquoi je me dépêcherais? On en est là encore. Puis on est à 48 heures ou à peu près de l'anniversaire du 1 an du conflit. Ce serait surprenant en tabarnouche qu'il se passe de quoi d'ici là.